On va d'abord parler de le sujet de Pourim, c'est Amalek, évidemment. Alors, on va parler d'abord aujourd'hui plutôt d'Amalek, et la prochaine fois, on parlera d'un peu plus de du reste de Pourim, quoi. Le Gaon explique dans le Shulchan Aruch, sur la halakha qui dit Chaya que on a l'obligation de s'embrumer un peu à Purim ad loyada ben Arur Aman le Baruch Mordechai jusqu'à ne pas savoir la différence entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Le Gaon dit à ce sujet-là, Rotsé Lomar, qu'est-ce que c'est que cette Ben Arour, Haman et Baruch Mordechai? Ben Nikmat Haman, Ligdulat Mordechai. C'est-à-dire entre la vengeance qui a été prise contre Haman, c'est-à-dire la situation qui s'est complètement retournée contre Haman, qui finalement a fini sur la potence qu'il avait préparée pour Mordechai. Et d'un autre côté, il y a aussi la gdoula, la grandeur de Mordechai qui devient, comment ça s'appelle, grand vizir ou quelque chose de ce genre-là. Vehu ma shekatuv gdola dea, c'est la grandeur du da'at, en fait, et qui va enchaîner Adat, loyada, etc. Adkan le shalom. C'est toujours le Gaon qui est toujours très concis. Il veut dire que l'avana, qu'est-ce que ça veut dire, Aroura? Enfin, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit entendre par Aruraman, c'est-à-dire la nekama. La vengeance est dans Baruch Mordechai, on doit entendre la grandeur de Mordechai. C'est ce que dit le Gaon. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire le Gaon ici?
Allô? Voilà.
Est-ce que d'après
Bonjour.
le Gaon, il faut pourquoi il s'est pas contenté du sens évident de Arur Aman, enfin s'il y en a un, et du sens évident de Baruch Mordechai. Dans le Midrash Rabba sur Esther, il dit Vayomer Aman La Melech Achashverosh, donc sur le passouk où Aman dit à Achashverosh, Yeshno Amechad Mefuzar Mfurad Ben Amim, il y a un peuple qui est dispersé, mais il est un peu dans tous les peuples de ton royaume en quelque sorte. Des Juifs, il y en a partout. Oto sheneemar bo Hashem echad yashan lo me'amo. Celui dont on dit qu'il est echad, il est en sommeil par rapport à son peuple. Amar le Hakadosh Baruch Hu, ani en lefanai shena. Hashem a dit, moi, je ne dors pas, ça n'existe pas là, dormir. C'est marqué, comme tout le monde sait, il est Loyanum Veloishan, Shomer Israël. Il ne dort pas, il ne somnole pas, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Ve'ata Amarta Yesh, Lefanai Shena, toi, Aman, tu dis que je dors. Chayecha, par ta vie, Shemitor Shena, אני מתעורר על אותו האיש ומאבדו מן העולם. Du milieu du sommeil, je me réveille contre cet homme et je le fais disparaître du monde. Ahou dirtiv, c'est ce qui est écrit dans le verset. Vaikatz, Ishan Hashem, Kegibor, Mitronen Meyain, c'est un pasouk dans Tehilim. Voilà. Donc, c'est ça le texte du Midrash. Il s'est réveillé comme si Hachem dormait, quoi, en quelque sorte. Comme quelqu'un qui sort de son état d'ivresse, en fait. Alors, on voit dans ce Midrash que Haman pensait que Akadosh Baruch Hu dormait, et que c'est pour cette raison qu'il pensait pouvoir détruire les Bnei Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a révélé, il s'est montré à lui de telle sorte qu'il comprenne qu'il n'en est rien. Il semble, de ce Midrash, que Haman ne s'était pas vraiment trompé. Puisqu'Hachem lui dit qu'il va se réveiller du sommeil et à ce moment-là, il s'occupera de lui. Donc Hachem dit vraiment qu'il était en train de dormir. Hachem dit « Je vais me réveiller, tu vas voir ce que ça va donner. » Alors, le Midrash dit, tu dis que je dors, mais moi je dors jamais. Puis après, le Midrash continue et dit, ou Hachem dit, je vais me réveiller de mon sommeil. Évidemment, il faut comprendre. D'un côté, on dit, en shena alfanav, c'est-à-dire, il n'y a pas de sommeil. Hachem ne dort jamais. Et d'un autre côté, dans le Midrash, il dit que Hachem va se réveiller, au moment de se réveiller, il va s'en prendre à Haman. Ça, c'est une première chose, ça c'est le Midrash, le Midrash Rabba. Il y a une Gemara dans Maseret Megillah qui dit Tana, kevan she nafal pour le Chodesh Adar. Quand, comme vous savez, pour c'est les sorts, enfin pour Him, ce sont les sorts, parce que Haman a tiré au sort, il a jeté les sorts, si vous voulez, pour fixer la date qui serait, selon lui, devait être la date de la destruction du peuple juif, en fait. Quand c'est tombé sur le mois d'Adar, dit la Gemara, il a été très, très joyeux, Haman. Il s'est dit, c'est formidable. C'est le mois de la mort de Moshe. C'est intéressant parce que la Gemara, elle présente Haman comme quelqu'un qui il connaît les choses. Hein. Tous les Juifs ne savent pas que Moshe Rabbeinu est Niftar. Zayin Adar. Haman, lui, il le savait. Pour ceux auxquels ça dit quelque chose, c'était vraiment le cas des nazis. Les gens du Sturmer, ils connaissaient tous les minagim, enfin pas tous, mais ils connaissaient énormément de minagim des gens. Et effectivement, ils calculaient, ils réfléchissaient aussi en termes de Yamim Tovim, etc. Quand est-ce qu'on peut faire le plus de mal, etc. Pas pour rien qu'ils faisaient des actions antisémites maximales à Kippour, etc. Justement à ces moments-là. Là, lui, il est très content. Il connaît la date de la Ptira de Moshe Rabbeinu et il est très content de ce que, effectivement, il a jeté les sorts et c'est tombé sur le mois d'Adar. Ou l'Oyada, mais il connaît, mais il ne connaît pas tout. Ou l'Oyada, de Be'adar met Moshe, ou Be'adar nolad Moshe. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est vrai que Moshe Rabbeinu est niftar en Adar, mais il est aussi né en Adar. On voit donc ici que, en fait, Aman avait raison dans son cheshbon. C'était effectivement le mois où Moshe Rabbeinu est niftar. Donc, d'une certaine manière, c'est vraiment un moment où on peut envisager de détruire les Bnei Israël. Parce que quelque part, c'est le moment où Moshe Rabbeinu disparaît. Sauf qu'il ne savait pas qu'il est aussi né dans le mois d'Adar. Rashi, dans la Gemara, là-bas, il explique Kedai ou Aleida Shetechaper Alamita. Elle est assez forte, la naissance, pour apporter une kapara sur la mort. Mais il faut aussi comprendre ce que dit Rashi ici. De toute façon, la mort, elle vient après la Léda. Alors comment est-ce que la Léda, comment la naissance peut-elle réparer, apporter une capara sur ce qui va se passer 120 ans plus tard? Il faut aussi comprendre c'est quoi l'idée que la naissance fonctionnerait comme une capara pour faire pièce à la mort de Moshe Rabbeinu. Sauf, Moshe Rabbeinu n'est plus là. Alors voilà, dans la Gemara, c'est une Gemara dans Choulin, on dit que la Gemara là-bas elle demande, puisque tout est attesté dans la Torah, où est-ce qu'on trouve une allusion à Aman dans la Torah? Tout le monde connaît. La réponse c'est Hamin Haetz, que Hachem a demandé à Adam Arishon, est-ce que tu aurais mangé de cet arbre dont je t'avais interdit de manger le fruit? Et le mot Hamin, ça s'écrit He Mem Nun, ça se dit aussi Haman. Donc voilà, on a trouvé une source qui parle de où le mot Aman, en tout cas la graphie qui peut se lire Aman, figure dans la Torah. Le Maharal de Prague explique cette Gemara. Bien sûr, ce n'est pas simplement le fait qu'on trouve le « he mem nun » dans le texte. Cette histoire de « hamin haetz », ça parle du « etz hadaat tovara », ça parle de la faute qui a été commise par Adam quand il a consommé du fruit de cet arbre. Alors le Maharal explique que la force d'Aman, sa puissance en fait, elle lui vient du Etz Hadaat Tovara, justement. Elle lui vient de cet arbre-là, donc de la consommation de cet arbre, enfin de la transgression et de la consommation du fruit de cet arbre. C'est pour ça que Aman dans la Torah, il apparaît dans le contexte de la faute du Eitz Hadaat. Chaim de Volozhin, dans Nefesh HaChaim, au début, Char Aleph, Reg Vav, Ragaï dit, là-bas, il donne une explication, il explique un petit peu le sujet de la faute de la consommation du fruit de Eitz Hadaat. Et il dit que avant la faute, bien que Adam Arishon ait été un Baal Bechira Gamour, néanmoins, tout ce qui le concernait se faisait de façon absolument droite et pure, pour le bien, sans aucun mélange de mal et sans même pencher du côté du mal. Et les forces du mal, elles étaient comme quelque chose qui était là pour soi, complètement séparé, et en dehors de lui, en dehors de Adam. Donc son libre arbitre, le choix qu'il avait de manger ou de ne pas manger, c'était, au fond, pour lui, c'était comme quelqu'un dont on pourrait dire qu'il a le choix d'entrer ou de ne pas entrer dans le feu. Il y a un feu devant lui, il peut entrer dans le feu ou n'y pas entrer. Et le Nahash, le serpent, était à l'extérieur. La séduction venait de l'extérieur. Quand il a fait la faute, alors les forces du mal sont entrées en lui en quelque sorte. Elles sont aussi entrées dans tous les mondes, dit Nefesh HaRaim. Elles sont entrées, elles n'étaient plus extérieures, elles se sont mêlées à toutes les forces, à tous les mondes. Et du coup, la séduction de l'homme, elle vient aussi de l'intérieur. Elle ne vient plus de l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que l'Eitz Tovera, c'est-à-dire, quand tu manges ce fruit, alors Tovera. Il y a un lien entre Tov et Ra. Avant, ils étaient complètement séparés. Maintenant, on a affaire à un mélange de Tov et de Ra. Et pourquoi ça s'appelle Da'at? Parce que Da'at, en Lashon Kodesh, Da'at, ça veut dire Chibour. Da'at, ça veut dire lien. Quand on connaît quelque chose, on a un lien avec la chose. C'est pour ça que Chazal disent que quand le Nahash est entré en rapport avec Chava, il y a déposé en elle quelque chose comme une forme de saleté, en quelque sorte. Il a laissé une trace. Ça veut dire, le mal était à l'intérieur. Il y a déposé du mal. Donc le mal va être partie prenante dans toutes les décisions les humains à partir de ce moment-là. Donc c'est vraiment à l'intérieur de Chava. Donc ça entraîne un flou généralisé, parce que le bien et le mal sont côte à côte, ils sont ensemble. Une fois c'est bien, une fois c'est mal. Ça balance toujours. Tov, ra, tov, ra. Et finalement, le Nefesh HaChaim, il complète ça et il dit que cette histoire de ce mélange désormais à l'intérieur de l'être humain, ce mélange-là, il a cessé. Il y a eu expulsion du mal. On s'est retrouvé dans la condition qui était celle de Adam Arishon avant la faute, à Matan Torah. Ça s'appelle Pascha Zohamatan. La Zohama, la trace du mal qu'il y avait dans l'être humain, par le fait qu'il y en a chez la mère de l'humanité, de Chava, ça a disparu. C'est pour ça que dans la faute du Vaudor, le Satan, il est venu de l'extérieur. Comme le Nahash. Donc on rejoue la même scène, en fait. Donc la Zohama, elle revient. Cet état de flou, de mélange, revient avec la faute du Vaudor. Ça, c'est donc l'explication, enfin, en gros, l'explication que donne Nefesh HaChaim de la situation. Donc, le travail du Nahash, du serpent dans la faute du Etz Hadat, c'est de faire en sorte qu'on y voit plus très clair. Il n'y a plus une avdara claire et nette entre le bien et le mal. Idem pour la faute du Vaudor. Alors, on sait que le Nahash, le serpent, c'est le Kohar d'Amalek. Dans Matan Torah, au moment de Matan Torah, il y a eu cette faute du Vaudor. Ça vient aussi de la force d'Amalek. Bon, ce sont des choses qui doivent être expliquées, mais pour l'instant, on va le prendre comme ça. Le Gaon de Vilna dit que cette trace d'Amalek dans la faute du Vaudor, elle vient par le biais du Erev Rav. Le Erev Rav, c'est cette population qui s'est jointe au Bnei Israël quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim. Dans le nom, vous entendez Erev Rav, c'est le grand mélange. Bon, le Gaon écrit à plusieurs endroits que fait remarquer que Erev Rav, c'est la même gématria que Da'at. Ça veut dire que les Bnei Israël, enfin les, à travers le Erev Rav, ils ont endommagé en quelque sorte leur date. Parce que justement, le date, c'est ce qui permet justement de relier les choses, mais pas de les mélanger, de les relier. Chaque chose est à sa place et elle a un lien, mais elle est à sa place. Et le révrave, c'est justement le mélange. Et c'est pour ça que Aman, il est dit de façon allusive dans le texte de la Torah, à l'endroit où on parle du Hetzadat. Parce que la force d'Amalek, c'est justement de produire ce mélange de bien, de Tov Vera. Et si on mélange le Tov Vera, alors ça introduit du flou, du safek. On ne sait plus ce qui est vrai. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est du tov ou si c'est du ra. C'est pour ça que en Sfarim, on écrit que Amalek, en Gematria, c'est safek. C'est le doute. Ce n'est pas un doute positif, c'est un doute négatif. C'est-à-dire c'est un doute qui vient de ce que on ne sait pas ce qu'on a à faire devant nous. Ce qu'on a devant nous, on ne sait pas. C'est mélangé. Alors, on a dit dat, ça veut dire chibour, ça veut dire lien. Quand on dit que Adam yada et trava, c'est ce lien qui s'est créé entre eux. Alors, on sait que pour qu'il y ait du dat, il faut qu'il y ait de la havdala. C'est pour ça que, en particulier, la havdala qu'on fait dans la Amida de Motzei Shabbat, la havdala, elle se fait dans Tachonen Adam Dat, dans cette bracha du dat. La Gemara dit Im ein dat avdala minayin. S'il n'y a pas de date, alors d'où est-ce qu'on aurait la possibilité de apparaître des différences? Bien sûr que il n'y a pas de contradiction. La force du date, qui est un chibour, c'est pas un chibour qui mélange les choses, des choses qui n'ont rien à voir ensemble. C'est le chibour dans lequel on sait faire exactement les liaisons qui doivent être faites, les liens, mais les liens qui doivent être faits, c'est ça le dat, c'est pas faire des liens. Si par contre, donc, si on sait quelles choses doivent être reliées, on sait aussi quelles choses ne doivent pas être reliées. On sait donc les choses qu'il faut tenir séparées, qui doivent être éloignées les unes des autres. La capacité de Havdala, dans les différences, elle vient de ce qu'on est capable de faire les bonnes liaisons et pas de faire les autres. Et c'est ça qui s'est passé. Vous savez bien que les Bnei Israël n'ont campé que Keish Echad Belev Echad au pied du Sinaï. C'est Baïchan Sham Israël, donc. Chazal disent, Rashi le ramène, donc Keish Echad Belev Echad. Le Ramban, là-bas, dit que ça veut dire que les Bnei Israël ont se sont séparés du Erev Rav. Ils n'ont pas voulu être mêlés au Erev Rav. C'est-à-dire, l'unité du clan Israël, elle s'est faite en se séparant du Erev Rav. Comment on a pu faire les bonnes liaisons pour faire du clan Israël une entité, c'est quand on a su faire les bonnes liaisons et éloigner les mauvaises liaisons. Donc, il fallait veiller que dans ce clan Israël qui doit être un pour pouvoir recevoir la Torah, il n'y ait pas de mélange de Tov Vera. C'est ça l'idée que Pascal Zohamatan, au moment de Kabbalat HaTorah, il n'y a plus la trace du mal à l'intérieur, le mal est à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un état de Da'at parfait. Donc, on comprend bien ici que le niveau des Bnei Israël au moment de Kabbalat HaTorah, c'est un niveau qui, justement, était déterminé par la capacité de faire la différence, d'éliminer la trace du Nahash, éliminer la trace de la faute initiale, de cette Zohama. Donc, éliminer les mélanges, Tov Vera. Et donc, toute impureté, en quelque sorte, dans cette unité du clan Israël pour revoir la Torah, elle vient de ce qu'il est quand même resté, semble-t-il, du mélange. Ça veut dire que le tri ne s'est pas fait de façon parfaite. Et on peut comprendre ici ce que... Pourquoi, en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu a contraint les Bnei Israël à accepter la Torah de Baal Peh en leur renversant la montagne. Et on sait que tout ça a à voir avec Purim, puisque les Bnei Israël ils ont été Moser Modaa, c'est-à-dire qu'en réalité, les Bnei Israël n'ont accepté la Torah que sous la contrainte. Donc, il pourrait dire à Hachem, pourquoi est-ce que tu nous punis? Pourquoi est-ce que tu as détruit, tu as accepté la destruction du premier Beit HaMikdash? Finalement, notre engagement à tenir la Torah, il a été obtenu sous la contrainte. Donc, on ne peut pas nous en vouloir. On ne s'est pas vraiment engagé. Mais les Bnei Israël n'ont pas fait usage de cet argument-là. Et au contraire, on dit « Adar kibloua beratzon bimachashvosh ». Autant Purim, on a réaccepté la Torah, cette fois-ci sans contrainte. Parce qu'il faut comprendre que c'est quoi, de quoi on parle ici exactement. Il faut comprendre que puisque la Torah a été acceptée par ce qu'on appelle un Gilui Panim, un dévoilement complet, c'est-à-dire le dévoilement d'Hachem, dévoilement Gilui Panim, ça veut dire que Hachem gouverne le monde de façon surnaturelle, de façon qui n'a rien à voir avec les lois de la nature. Donc, en fait, leur acceptation, l'acceptation des Bnei Israël, de la Torah, acceptation de la Torah, elle, d'une certaine manière, elle n'incluait pas l'acceptation de la Torah lorsque on est dans un monde qui fonctionne selon les lois de la nature. Puisque justement, ils n'avaient plus, à ce moment-là, quand ils ont accepté, ils n'avaient plus une volonté enfin, au sens matériel du terme, une volonté comme une volonté de ce monde-ci. Donc, ils ne pouvaient pas accepter la Torah parfaitement, c'est-à-dire dans toutes les situations. Parce que peut-être que dans des situations où le monde est gouverné de façon naturelle, peut-être ne reconnaîtrait-il pas la supériorité ou l'excellence de la Torah. Seulement donc à Pourim, où on est dans un moment de Esther Panim, d'accord, exterminator. Esther Panim, le visage d'Hachem est caché complètement. Donc ça veut dire que les lois de la nature fonctionnent à plein. À ce moment-là, leur Kabbalat HaTorah, à ce moment-là, bien que le monde soit gouverné à ce moment-là précisément selon les lois de la nature, dans le Esther Panim, alors leur Kabbalah, leur acceptation était une acceptation totale. Acceptent le monde ordinaire. Au Sinaï, ils ont accepté la Torah dans un monde extraordinaire. Donc, à la limite, si le monde continue d'être extraordinaire, c'est-à-dire un monde dans lequel Hachem intervient et visiblement, okay, alors on accepte la Torah. La Torah, voilà. Mais accepter la Torah dans un monde ordinaire, ça pose des problèmes. Et ça, ils n'avaient pas accepté au Sinaï. Et maintenant qu'on est en Galoute, on est le Galoute de Perse, on est dans un Esther Panim, c'est-à-dire ils sont sous le coup d'un projet de solution finale. Là, ils ont accepté la Torah. Donc, d'après ce qu'on a vu, le fait qu'il ait été nécessaire au Sinaï de les obliger à accepter la Torah, parce que C'est parce que la contrainte, elle vient pour surmonter un refus. On dit non, on ne veut pas, alors on nous contraint. Donc, il faut utiliser d'une certaine manière la force de la contrainte pour obtenir le résultat, pour obtenir l'acceptation. Chaque fois qu'on dit kofin à la mitzvot, c'est-à-dire qu'on oblige les gens à pratiquer les mitzvot. Pourquoi est-ce qu'il faut les obliger? C'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui s'y refuse. Donc au Sinaï, comme il restait quelque chose qui s'opposait à une véritable acceptation, c'est quoi? C'est en quelque sorte que le côté ordinaire, naturel de l'homme, enfin des hommes qui étaient au Sinaï, ils ne sont pas tous devenus, disons, complètement spirituels. Sur cette partie-là, alors il fallait faire usage de la contrainte pour les obliger à accepter. On dirait, mais pourquoi il fallait les obliger? C'est la fameuse question. Ils ont déjà dit là, c'est Benishma. Et ça, ils l'ont dit sans contrainte. Bon, il faut dire que quand ils ont dit Naase Venishma, finalement, ça n'incluait pas toutes les situations. Et donc, quand la période où la Anaga, c'était une Anaga de Giloui Panim, s'est terminée, c'est-à-dire en Babel, quand les Bnei Israël ont été exilés en Babel. Alors, la Zohama du Nahash qui était revenue, donc, comme on l'a vu après la faute du Vaudor, ben, elle a fait son effet. Et d'une certaine manière, les Bnei Israël, Masrou Moda'a, ils ont dit, mais en vérité, on n'était pas obligé d'obéir à Torah, puisqu'on y a été contraint, donc ce n'est pas une vraie acceptation. On ne peut pas nous reprocher de ne pas être à la hauteur de notre acceptation. On n'a jamais accepté sans contrainte. On n'a accepté qu'avec la contrainte. Donc, pourquoi venir maintenant nous faire des problèmes? Et là maintenant, la contrainte n'était plus là. Et donc le bien et le mal étaient vraiment mélangés, comme dans la suite de la consommation du fruit du Etz Hadat, et comme après le Hegel. Donc, dans la mesure où il manquait au niveau de l'acceptation, il manquait le fait d'être vraiment en accord, de vraiment agréer, vraiment vouloir, alors à ce moment-là, la Zohama, la trace de ce mélange-là, eh bien, elle joue plus fortement. C'est-à-dire, c'est ça la trace d'Amalek. La force du Nahash. Hazal, on dit toujours dans le Midrash quand les Bnei Israël ont fait le veau, alors le Midrash rapporte qu'Hachem a dit Shavartem naase Isaru benishma. Vous avez brisé le naase, nous allons faire. Faites attention de respecter le nishma. Dans le naase benishma. Vous avez abîmé le naase, il vous reste le nishma, il faut en prendre soin. Ça veut dire que le niveau naase benishma n'a pas été complètement brisé. Il reste quelque chose de ce naase benishma. C'est-à-dire, il nous reste quelque chose qui nous relie aux premières luchot. Je vous rappelle que les premières luchot, les brisures des premières luchot étaient dans le Haron. Mais quand les Bnei Israël ont envisagé cette moda'a, on va dire qu'en vérité, on n'est pas vraiment astreint à la Torah, alors la Zohama du Nahash, elle a éclaté, elle a pris toute sa vigueur, en fait. Et comment est-ce qu'il fallait lutter contre ce mélange-là qui venait du Nahash, littéralement. Il fallait aller chercher la lumière, le reste de lumière qu'il y avait dans les ténèbres en question. C'est-à-dire que bien que quand les forces de la nature fonctionnent, alors la lumière et l'obscurité fonctionnent ensemble. Comme le dit le Nefesh HaChaim. Mais néanmoins, si on arrive à dévoiler la lumière qu'il y a dans ce mélange, alors ça va quand même servir à clarifier les choses. Ça va quand même entraîner une acceptation de la Torah et qui, elle, à son tour, va annuler la Torah elle-même. Si on arrive à l'accepter, alors elle va nous aider à lutter contre ce qui pourrait nous entraîner à ne pas l'accepter, en fait. Il faut arriver à trouver suffisamment de lumière pour rattraper la Torah. Et une fois qu'on a la Torah, elle va nous permettre de lutter contre cette Zohama, contre cette trace. C'est-à-dire, comme dans Matan Torah, les Bnei Israël, c'est marqué, ils ont campé Tachat Ahar, Belev Echad. Comment? En ce qu'ils ont été capables d'éloigner, de se séparer du Erev Rav. Mais le fonctionnement du monde selon les lois naturelles, ben, ça continue évidemment. Mais, même à ce moment-là. Mais eux, ils savaient clairement qu'ils savaient ce qu'il fallait faire pour faire les bons liens et pas les mauvais. Donc, ils se sont rendus compte qu'on pouvait même utiliser le rocher au service de la lumière, en quelque sorte. Utiliser le rocher au service de la lumière, c'est ce fameux principe de Venahaforu, ce retournement complet. C'est-à-dire, finalement, si vous voulez, cette idée que la potence que Haman construit pour y pendre Mordechai, les choses se retournent et c'est cette même potence qui va servir pour pendre Haman. Donc, ce qui apparaissait comme le symbole du mal, ce qui s'oppose vraiment au Tov, tout à coup, ça devient ce qui permet de manifester la lumière, qui permet de manifester le Tov. Et du coup, il n'y a plus de... Puisque même le Ra a été renversé et qu'il est devenu Tov, il n'y a plus de Ra. Il n'y a plus de... Le mal n'existe plus. Et c'est ça que dit la Gemara dans Megillah, qui dit que Gdola Asarat Tabaat Yoter Mimemchet Neviim. Pourquoi? Chez Kolma She'ata Nire Ra, Aya Ra Kede Legalot Atov Shebo. Qu'est-ce que ça veut dire? Asarat HaTabaat, c'est quand Ahashverosh a enlevé son sceau et il l'a confié à Haman. Parce que dans, dans ce royaume un peu cinglé, Ahashverosh, visiblement, il s'en remettait au grand vizir. Parce que il va continuer. Quand on va nommer Mordechai grand vizir, Ahashverosh, il reprend le sceau qu'il avait récupéré chez Haman et il le donne à Mordechai. Ça veut dire que quand Haman prenait des décrets anti-juifs, en fait, les décrets étaient scellés à Ahashverosh. Ils n'étaient pas signés à Haman. Parce que c'était scellé avec le sceau d'Ahashverosh. Donc, le fait que Ahashverosh ait donné le pouvoir sur l'empire perse à Haman, les 127 provinces étaient dans les mains d'Haman, ça a plus d'effet que les 48 prophètes. Les prophéties, c'est, la prophétie, elle parle, on pourrait dire, elle parle peut-être au Sechel, elle parle à l'intellect, l'intelligence. Le geste en question, il parle au cœur quasiment. Les Israël, ils ont été choqués. Mais donc ça apparaît comme le summum du mal. Mais finalement, ce mal-là en question, avec le principe de Vena Forchu, il est devenu le moyen de manifester tout le bien qu'il y avait sous forme très diluée ou très dispersée. Dans le mal, il y avait des étincelles de bien, si on le portait comme ça. Ça a permis de dévoiler complètement le bien. Donc on peut maintenant comprendre un peu mieux l'erreur de Haman. Quand Haman disait le Dieu des Juifs, là, il dort. Ça voulait dire que eux, ils pensaient que la façon dont Hachem s'occupe des Bnei Israël, s'est occupé des Bnei Israël jusqu'alors, n'existe plus. Comme le dit le Ramban sur la Gemara dans le Shabbat, il dit que les Bnei Israël étaient dans une situation où ils pouvaient penser que s'appliquait à eux ce fameux principe-là, Eved שגירשו רבו כלום, יש להם זה על זה? Si le maître a chassé son Eved, son serviteur, est-ce qu'ils ont encore un quelconque lien entre eux? C'est ça l'idée de sommeil, si on peut parler comme ça. Ils pensaient qu'il n'y a plus de lien du tout entre Hachem et le clan d'Israël. Et d'une certaine manière, on peut dire que Haman avait un peu raison. Mais est-ce qu'il n'a pas compris ce que même dans cette situation-là, qui ressemble à une situation de sommeil, même dans cette situation-là, il reste toujours dans le plus Esther Panim, dans le plus... la situation où le visage est le plus caché, Hachem lo yanum ve lo yishan. C'est-à-dire, dans et avec pratiquement le Esther Panim, les Bnei Israël ont vu, ils ont pu voir que tout le négatif qu'il y a eu durant cette période-là, était pour leur bien. C'est ça qu'il faut comprendre, qui est absolument fondamental, c'est que souvent les gens disent « Oh, Yétov, ça sera bien, ça va bien finir. » On dit que le Hazon Ish, quand on disait ça devant lui, il reprenait les gens, il disait ce n'est pas Yétov, ce n'est pas que ce sera bien dans le futur. C'est déjà bien maintenant. Nous, on ne le voit pas, mais c'est déjà bien. Alors, bien sûr que c'est un peu paradoxal de dire, dans la situation dans laquelle étaient les Bnei Israël, par exemple, à ce moment-là, de dire que c'était bien. Mais en vérité, c'était bien. Seulement, nous n'étions pas capables de le voir. Hachem va, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Dans la Haggadah de Pessah, on nous rapporte que les Chachamim s'étaient réunis chez Rabbi Akiva. Il y avait là-bas Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Tarfon, les trois en question. Mais ces trois-là sont les maîtres de Rabbi Akiva. Comment se fait-il que les maîtres soient chez l'élève? Comment se fait-il que le soir du Seder, où normalement ils devraient être chez eux à la maison, s'occuper de leurs enfants, ils sont allés chez Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, C'était lui le grand maître du Kol de Avid Rachmana le Tav Avid. C'est le grand maître de tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Il est leur maître à tous dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'ils sont venus dans cette situation qui on est sous la domination romaine. Ça va très mal. Sont allés chez Rabbi Akiva pour apprendre que cette situation qui était le mal, presque par excellence, apprendre que c'est bien quand même, c'est bien, c'est tov. Si Hachem le fait, tout ce qu'Hachem fait, c'est le tav, c'est le bien. Donc, la réalité de, pour revenir à notre sujet, pour la réalité de ce sommeil, c'est que pendant le sommeil, tous les sens sont à peu près à zéro. Il ne fonctionne pas. Mais même dans le sommeil, évidemment, il y a toujours quelque chose qui ne sommeille pas complètement. Et c'est comme ça qu'on peut se réveiller. C'est grâce à ce qui, à un point qui ne dort pas complètement, qui reste fonctionnel, et si l'homme pense au moment de son sommeil, il pense qu'il est tout entier endormi en quelque sorte. Et donc on pourrait penser que l'idée de Haman, c'était que voilà, c'est on a l'impression que Hachem ne s'occupe plus du tout des Bnei Israël. Donc la situation est une situation où le sommeil a tout envahi. Bien, ce qui s'est passé à Purim, c'est que le point éveillé au milieu du sommeil, en quelque sorte. Ce point-là s'est révélé, s'est actualisé, en fait. Et ce qu'il faut comprendre ici, que ça, c'est justement le dévoilement du Da'at. C'est le Da'at qui a réveillé. Ce qui s'est passé, c'est que cette petite lumière-là, elle n'était plus mélangée. Cet endroit éveillé n'était plus mélangé avec le sommeil. L'idée de Haman, c'était de penser les choses en termes de la Zohama a pris le pouvoir, en quelque sorte. Cette négativité est là, elle a pris le pouvoir. Donc elle est noyée, en quelque sorte, dans le mal. Donc elle n'a plus aucune chance de s'en sortir. Cette idée que on pourrait penser qu'il y a des situations où la lumière ne peut pas s'extraire, ne peut plus s'extraire du mal, que donc effectivement il y a des situations qui sont complètement perdues. On peut faire une petite parenthèse. C'est ce qu'ont pensé les fameux malachim. Vous vous souvenez, on en avait parlé déjà. Il y avait des malachés chavala, des anges qui voulaient empêcher la neshama d'Abraham Avinu de descendre dans le monde. Le monde, il était envahi par la avodah zara. D'accord, le monde s'était disqualifié après le déluge, après l'inondation au temps du Dor Enosh, maintenant la tour de Babel, l'humanité s'est complètement disqualifiée. Et donc voilà, c'est fini, le plan d'Hachem, quelque part, il a raté. C'est ce que pensaient les malachim. Donc ils voulaient empêcher la Neshama, ils savaient qu'il y avait une Neshama qui pouvait éventuellement changer les choses, mais il fallait l'empêcher de descendre dans ce monde. Alors ils étaient à l'affût pour l'empêcher de descendre. Finalement, ils ont réfléchi, ils se sont dit, au lieu d'être à l'affût et de l'empêcher de descendre, il vaudrait mieux la faire descendre dans une telle profondeur qu'elle ne pourra plus jamais remonter. Et on a cherché à faire descendre cette neshama dans le couple, naître, si vous voulez, que l'enfant naisse avec cette neshama dans le couple le plus pourri du monde. Le couple le plus pourri du monde, c'est Terach ve'Amtala et sa femme. Et la neshama d'Abraham Avinu, elle est née là-bas. Et donc les malachim disent cela. Là-dedans, elle ne pourra pas remonter, c'est impossible. Mais elle est remontée quand même. Parce que c'est ça, ça c'est la volonté d'Hachem, que cette lumière-là, elle ne se noie pas définitivement. Les chassidim, ils disent que c'est le pintele, c'est le petit point, une espèce de noyau irréductible, en quelque sorte. Quelque chose qui ne peut pas se fourvoyer, en quelque sorte. Quelque chose qui reste avec sa qualité. Alors, ces fois, c'est enfoui sous des couches de mouchoir ou de graisse, ou de... Mais c'est toujours là. Donc c'est ça que Aman n'a pas pensé en quelque sorte. Il pensait que c'est OK, tout dort ici. C'est un sommeil profond partout. C'est le point qui s'est éveillé. Cette racine de, à partir de laquelle tout va changer, en fait. Que même tout ce qui paraissait en sommeil va se réveiller. Je pensais que c'était Batel complètement, mais ça s'est réveillé. Et c'est ça, Vayikatz, qui s'est réveillé. Yashan Hashem, Gibor, Mitronen, Miyain. Comme quelqu'un qui sort de son état d'ébriété. C'est sûr qu'il y avait un état de Shena, un état de sommeil. Mais le sommeil lui-même, il n'est pas un état de mort. C'est quelque chose qui est susceptible, qui porte en soi la capacité de se réveiller. Et du coup, tout ce qui était en sommeil, donc tout ce qui paraissait touché par la négativité, tout ça s'est remobilisé. Et tout a changé. Et tous les rapports de force et toutes les situations se sont changés du tout au tout. Donc, même cette idée que Aman avait, que le mois de Hadar, c'est un bon mois pour détruire les Bnei Israël, puisque c'est le mois de la mort de Moshe Rabbeinu. Puisque c'est, en fait, c'est Moshe Rabbeinu qui, en fait, a le secret du don de la Torah, enfin, etc. Et si Moshe meurt, alors, c'est sûr que dans ce mois-là, il n'y a plus de lumière, là. Donc, on peut en profiter pour détruire les Bnei Israël. Mais ils ne savaient pas que Moshe est aussi né dans ce mois-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien qu'effectivement, concrètement, nous n'ayons pas la lumière de Moshe. Mais il n'a pas complètement disparu. Ça veut dire, ce mois-là est le mois de sa naissance. Et ça, il le reste pour toujours. Il y a quelque chose de lumineux, si vous voulez, dans ce mois. C'est ça là. Cette idée de kapara, de la Leda, dont on avait parlé au tout début, C'est-à-dire que quand Moshé Rabbeinu disparaît, le lien avec Hachem n'est pas complètement annulé. On peut encore éveiller, même si Moshé n'est plus là. Sa lumière, en quelque sorte, elle est là, elle est dans le moi en question. C'est-à-dire la capacité de se réveiller, elle est toujours là. On peut comprendre ce que dit le Gaon, Chayav Libusume Andeloyada. Tout le Inyan de la Nekama, tout le sujet de la vengeance, c'est seulement possible si il reste encore une opposition. On peut prendre vengeance pour la détruire. Mais s'il ne reste plus rien du tout de l'autre côté, du côté des ennemis, on ne peut pas prendre sa revanche. On ne peut pas se venger. Et c'est ça le guilouille spécifique de Pourim. Où on a montré que dans le dévoilement, la sortie des ténèbres dans lesquelles on était enfoncé en quelque sorte, c'est ça qui s'est manifesté justement. Donc on a vu clairement que les ténèbres en question sont ce qui va permettre la lumière, c'est-à-dire tous les ennuis, tout le mal qui a été fait, tout ça, ça a été au service d'une seule et même chose, à savoir faire apparaître à la lumière la bonté éternelle qu'il y a dans cette lumière. C'est-à-dire que l'autre côté a été complètement anéanti, c'est-à-dire toute la Zohama à ce moment-là, elle a disparu. Donc il n'y a plus possibilité de prendre une revanche quelconque, puisque l'autre côté n'existe plus du tout. Il a été complètement annihilé. Et c'est ça le travail que nous devons faire. Andeloyada ben Dulat Mordechai l'Enikmat Aman, que si quelqu'un arrive jusqu'à cette connaissance que la grandeur de Mordechai, elle vient justement du fait qu'il ne reste plus rien du tout de l'autre côté. La Nekama, elle est complète. Même tout ce qui aurait dû rester de nature, etc., c'est simplement, c'est encore et toujours, ça cette fois-ci, du Gilui Panim. C'est toujours dévoilé. Donc, normalement, il n'y a plus de possibilité d'une Nekama. On ne peut pas prendre sa revanche, on ne peut pas se venger. Alors, il n'y a pas de nekama plus grande que la grandeur de Mordechai. Parce que c'est la grandeur de Mordechai qui a annihilé complètement le côté d'Aman. Ça vient du niveau du Da'at, le Da'at qui s'est dévoilé au moment du Nes de Pourim. Comme le Gaon dit, là-bas, ça appartient effectivement au niveau du Da'at. On dit Gdola Da'at, le Da'at c'est extrêmement de très très grand. C'est ça la avoda qui est à faire, c'est-à-dire qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'il faut s'embuer, en quelque sorte? Il faut enlever le da'at de l'homme. C'est-à-dire, sur le modèle de la shéna, du sommeil, où tous les sens sont au repos, on les maîtrise pas à ce moment-là. De la même manière qu'au moment du NES, ce qui s'est dévoilé, c'est que ce qui se jouait, semble-t-il, durant le sommeil, en profondeur, c'était un état de totalement éveillé. Ça donnait l'impression du sommeil, mais c'était totalement éveillé. Donc à Purim aussi, on peut enlever le da'at, ça c'est en dormant ou en buvant, mais que malgré tout, il reste aucune trace. Du rat, du mal, en fait. Il n'y a plus aucune trace sauf le vrai da'at, le vrai lien, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a priori n'existe qu'à Purim. Il n'y a aucune autre, et c'est une des raisons probablement pour lesquelles Purim ne sera jamais, ne disparaîtra pas. Les autres Hagim vont disparaître, et Purim ne va pas disparaître. Parce qu'il y a là quelque chose de tout à fait particulier, donc qui est vraiment ce da'at était à l'œuvre ici. Et donc, il faut arriver à enlever un peu ce da'at pour vivre. Donc, il s'agit de le vivre pour Purim. Et on ne peut pas vivre pour Purim si on n'enlève pas pour un moment le da'at. Parce que si on est toujours conscient, complètement conscient, alors on n'est pas dans la situation de Purim. Parce que la situation de Purim, il n'y avait plus de conscience, on voyait rien, il n'y avait rien à voir. Il faut oublier que Hachem est en train de nous sauver à ce moment-là. Si on ne l'oublie pas, on ne peut pas vivre Purim. Et ça, c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut savoir exactement comment le faire. Certains disent que le mieux, c'est de dormir, en fait. Dormir, parce que c'est ça la shéna. Parce que dans le sommeil, il y a le sommeil et puis il y a ce qui reste qui va nous permettre de nous éveiller, de nous réveiller. Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est compliqué pour lui. Voilà, on va s'arrêter là.